Bon réveil, si vous nous rejoignez, voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une pause humanitaire pour Alep. Depuis une heure, les quartiers rebelles sont épargnés par les bombardements des Russes et du président Assad. Nous irons sur place dans un instant. Nous verrons aussi que les civils sont sceptiques face à cette initiative de Moscou. Donald Trump reconnaîtra-t-il sa défaite le 8 novembre prochain s'il échoue à la présidentielle américaine? Pas sûr. Il a en tout cas laissé planer le doute cette nuit lors du troisième et dernier débat avec sa rivale Hillary Clinton. Les femmes en Amérique latine ont fait entendre leur colère hier après un nouveau féminicide en Argentine. Meurtre d'une femme parce qu'elle est femme. Le phénomène a pris une ampleur inquiétante dans le pays. Un revers cuisant pour Cécile Duflot. Elle est éliminée dès le premier tour de la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Les militants lui reprochent a priori son passage au gouvernement. Et puis les policiers toujours très remontés malgré les efforts des ministres de l'Intérieur et de la Justice pour calmer le jeu. Même les syndicats se disent débordés par le ras-le-bol de la base. Une pause humanitaire, quelques heures de répit au milieu de l'enfer. La trêve vient d'entrer en vigueur à Alep, en Syrie. La Russie s'engage aujourd'hui à ne pas bombarder la ville martyre, noyée sous un déluge de feu depuis plusieurs semaines. Et après des discussions tendues, hier avec le président François Hollande et la chancelière Angela Merkel à Berlin, le chef de l'État russe Vladimir Poutine a concédé qu'il était prêt à prolonger autant que possible le cessez-le-feu. Notre envoyé spécial Valérie Krova nous appelle d'Alep.
Le cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur ce matin est l'œuvre des Russes. 8 couloirs humanitaires seront ouverts, 6 pour les civils, les malades et les blessés, et 2 pour les rebelles armés. Situés essentiellement près des écoles et des mosquées, les points d'entrée seront surveillés par des drones. Le déroulement de l'évacuation sera diffusé en temps réel sur le site du ministère russe de la Défense grâce à des caméras de vidéosurveillance installées près des corridors humanitaires. 9 autocars et 7 ambulances attendront dans le nord d'Alep, autant dans le sud. Les habitants malades ou blessés pourront être hospitalisés s'ils le désirent dans les hôpitaux d'Alep Ouest. L'évacuation sera supervisée par des employés de la mission de l'ONU et des volontaires du Croissant Rouge syrien qui accompagneront les civils après leur départ d'Alep. Par mesure de sécurité, on ne sait pas où ils seront transportés, vraisemblablement dans des régions contrôlées par le gouvernement. Les rebelles qui accepteront de quitter Alep Est rejoindront sans doute la province d'Idlib, dans le nord de la Syrie, province toujours aux mains de la rébellion. C'est là que d'autres combattants avaient été transférés après leur départ de la ville de Daraya, près de Damas, en août dernier.
Valérie Krova, envoyée spéciale de France Culture à Alep. Alors une trêve de quelques heures, c'est insuffisant selon les humanitaires pour acheminer l'aide nécessaire. Quant aux civils, difficile pour eux d'avoir confiance dans le plan russe. Laure Stéphan a pu recueillir le témoignage d'Ismaël Abdallah, un jeune Alepin de 29 ans. Il fait partie des casques blancs, les secouristes volontaires dans les zones bombardées.
Si les blessés sont évacués, ils pourront être soignés. Ici, il y a une grave pénurie de médicaments. Ce serait une bonne chose qu'ils puissent être évacués de l'autre côté. Les médecins acceptent ça, à condition qu'il y ait des garanties pour la sécurité des blessés lors de leur transfert. Il ne se passera rien aujourd'hui, c'est juste une annonce médiatique. Les Russes disent qu'ils laisseront sortir ceux qui le souhaitent, mais il n'y a pas d'accord. Ce dont les Russes parlent, c'est du départ des combattants de Fatah al-Sham, l'ex-front al-Nosra. Il n'existe aucun passage sécurisé pour personne. On a besoin que quelqu'un, peut-être les Nations Unies, je ne sais pas, puisse proposer un plan clair et donner des garanties aux gens. Partir doit être un choix personnel. Quand les routes étaient encore ouvertes avant le siège, les habitants ont refusé de s'en aller. Mais aujourd'hui, certains voient les choses différemment à cause des violents bombardements qui sont comme l'enfer. La plupart de mes amis disent qu'ils veulent quitter la ville. Je pense que ce plan n'est qu'un prétexte pour bombarder de nouveau Alep dans quelques jours. Je crois que demain, les gens vont replonger dans l'enfer.
Le témoignage d'Ismaël Abdallah, habitant d'Alep, et casque blanc au micro de Laure Stéphan. L'actualité à l'étranger, c'est aussi ce matin Donald Trump qui laisse planer le doute quand on lui demande s'il reconnaîtra le résultat de l'élection présidentielle le 8 novembre. C'était cette nuit le troisième et ultime débat télé aux États-Unis entre les deux prétendants à la Maison-Blanche. Le candidat républicain à la traîne dans les sondages ne cesse de parler de vote truqué depuis quelques jours, accusant les médias corrompus à la solde de sa rivale Hillary Clinton. Passe d'armes glaciale, tendue, pas de poignée de main pour se saluer. Un débat à Las Vegas suivi cette nuit par notre correspondant Frédéric Carbone.
Sans doute est-il raisonnable que ce troisième débat entre Hillary Clinton et Donald Trump soit aussi le dernier. On voit mal en effet comment les deux candidats pourraient afficher plus clairement qu'ils ne se supportent pas. Les divergences de fond réelles sur l'avortement, l'immigration, la protection sociale sont éclipsées par l'absence de toute considération. Et quand Donald Trump ne veut pas dire qu'il reconnaîtra son éventuelle défaite le 8 novembre, c'est selon lui parce qu'Hillary Clinton, la criminelle, n'aurait jamais dû avoir le droit de se présenter. Même l'adversaire Vladimir Poutine est d'ailleurs vu à travers ce prisme personnel.
De ce que je vois, Poutine n'a aucun respect pour cette femme.
Peut-être parce qu'il préfère avoir une marionnette comme président.
Non, pas de marionnette. C'est vous la marionnette.
Les deux candidats savent que dans leur camp, la détestation de l'autre est un ciment puissant. Ils restent donc dans l'invective, voire dans l'insulte. Quelle femme dégoûtante, soupire Donald Trump à un moment du débat. Hillary Clinton, pour sa part, reprend la formule de Bernie Sanders. Trump serait le président le plus dangereux de l'histoire. Les équipes des deux candidats ont négocié pour qu'il n'ait pas à se croiser, donc à éviter ostensiblement de se serrer la main. Le 8 novembre, il faudra quand même s'appeler pour constater le résultat.
Frédéric Carbone était cette nuit à Las Vegas pour France Culture. Il a eu la peau de la présidente Dilma Rousseff au Brésil. L'ancien président du Congrès, Eduardo Cunha, est à son tour mis en accusation dans le scandale de corruption Petrobras. Il a été placé en détention hier. Ancien député ultra-conservateur, évangélique, il est accusé d'avoir dissimulé des pots de vin sur des comptes cachés en Suisse. En Argentine, si les femmes sont descendues dans les rues de Buenos Aires hier, c'est pour dénoncer un nouveau crime contre une adolescente sauvagement violée et assassinée. Le fémicide ou féminicide, c'est-à-dire le meurtre d'une femme parce qu'elle est femme, est une circonstance aggravante inscrite dans le droit argentin depuis 2012, mais le phénomène reste inquiétant dans le pays. Une femme est tuée pour cette raison toutes les 36 heures. Caroline Vic était hier soir dans la manifestation à Buenos Aires.
Sur la place de Mai, des milliers de femmes, vêtues de noir sous leurs parapluies multicolores, sont venues crier pour celles qui n'ont plus de voix. Lucia, Lola, Melina, Candela et toutes les autres. La liste des victimes est tristement longue, car en Argentine, une femme meurt toutes les 30 heures. Luisa, 63 ans, sait que la lutte ne fait que commencer.
Il faudra attendre longtemps avant qu'on nous écoute et qu'on mène des politiques en conséquence. C'est un long chemin, car on a passé des siècles avec une autre mentalité. Mais on est convaincus qu'il faut faire les choses pas à pas. C'est pour ça que la place est pleine de femmes et d'hommes aussi. Je suis venue avec mon mari et ma fille, parce que pour qu'une société avance, l'effort doit être fait tous ensemble.
Dans cette marée noire, quelques tambours, des chants et d'autres qui préfèrent le silence. C'est le cas de Maya, 21 ans, qui marche seule. Pour elle, les autorités doivent entendre leur message.
On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe, sur la façon dont les femmes meurent et sur la violence en général, que ce soit les publicités, les émissions de télé. L'État doit faire appliquer la loi, créer de nouvelles mesures, investir de l'argent pour un accès aux statistiques, pour la création de nouveaux foyers pour les femmes qui portent plainte. Ce qui manque ici, c'est la présence de l'État.
Les Argentines ont donc rappelé que le machisme tue. Depuis janvier 2016, 226 fémicides ont été commis, 19 rien qu'en octobre.
La correspondance à Buenos Aires de Caroline Vic et le mouvement a été relayé hier avec des marches au Chili, au Mexique et encore en Uruguay en solidarité avec les femmes argentines. Déçue, Cécile Duflo, l'ancienne ministre et patronne d'Europe Écologie Les Verts, a été sèchement éliminée hier dès le premier tour de la primaire organisée par son parti. Les deux qualifiés pour le second tour sont les eurodéputés Yannick Jadot et Michel Rivasi, peu connus du grand public. Alors pour Cécile Duflo, c'est un échec cuisant, Sophie Delpont.
C'est sur Facebook qu'elle a choisi d'exprimer sa déception. Pas d'interview hier soir. Pour Yannick Jadot, arrivé en tête, l'ancienne ministre paye cher ses choix tactiques.
Elle paye, je crois, injustement les responsabilités qu'elle a assumées à la tête du parti de l'écologie politique en participant au gouvernement Hollande. Et qu'il y a probablement chez celles et ceux qui ont voté une volonté de renouvellement qu'elle paye, je le répète, assez injustement.
L'alliance avec le Parti Socialiste pour décrocher son mandat de député à Paris en 2014 n'est pas passée non plus auprès des militants, tout comme sa décision de quitter le gouvernement autour de thématiques sociales et non écologistes. Mais pour Caroline De Haas, qui avait récolté plus d'1 300 000 signatures à sa pétition « Loi travail non merci » et qui faisait partie de son équipe de campagne, l'échec d'hier soir a une autre explication.
C'est qu'il y a là un débat politique qui a été tranché par le peuple de l'écologie, parmi les 12 000 personnes qui ont participé à la primaire. sur le fond stratégique. Est-ce qu'on veut construire une écologie majoritaire qui vise à prendre le pouvoir à moyen terme, voire à court terme, ou est-ce qu'on veut une écologie de témoignage? Ce débat, il a été tranché, voilà, et on a perdu. La primaire, elle s'est jouée là-dessus.
Sur Internet, Cécile Duflot encourage les militants à participer au second tour, mais sans donner de consigne de vote. Elle s'engage à soutenir par la suite le gagnant de l'élection, mais uniquement à l'issue de la primaire.
Second tour par correspondance seulement jusqu'au 4 novembre. On devait connaître le candidat écologiste à la présidentielle le 7 novembre prochain. Et à quelques mois de la présidentielle, voilà un mouvement de colère qui tombe mal. Les policiers ont encore manifesté hier soir, troisième nuit consécutive à Paris, mais aussi à Nancy ou à Toulouse. Un ras-le-bol exacerbé par l'agression d'une patrouille le 8 octobre dernier à Viry-Châtillon. Hier, le gouvernement a tenté de déminer le terrain, recevant les syndicats au ministère de l'Intérieur et de la Justice. Mais le problème, c'est que les syndicats sont aujourd'hui débordés par la base, comme a pu le constater à Bordeaux Ezekiel Fernandez.
À Bordeaux, où la situation est pourtant moins tendue qu'en région parisienne, les syndicats de police le reconnaissent. Il est de plus en plus difficile de tenir les troupes. Éric Maroc est le secrétaire régional d'Alliance syndicat majoritaire.
N'ayons pas peur des mots, nous sommes, nous, organisations syndicales, débordées par nos collègues qui n'acceptent plus des promesses politiques, puis ils veulent des réponses concrètes. Aujourd'hui, un policier français doit pouvoir travailler en toute sécurité, doit avoir les moyens de le faire et doit pouvoir, quand il interpelle quelqu'un, le voir sanctionné à la hauteur de l'infraction commise.
Philippe Roland, secrétaire girondin d'Unité SGP Police, confirme et regrette qu'il faille des débordements pour être entendu.
Nous, c'est des messages qu'on porte depuis des années. Et des fois, c'est vrai qu'on a l'impression que l'administration dit « bon, les syndicats, oui, mais vous exagérez ». Aujourd'hui, ce qui s'est passé, on l'a vu des images à la télé, non, on n'exagère pas. On a vu que certains n'hésitaient pas à s'en prendre au directeur général sans les syndicats. Et aujourd'hui, on est débordé, tout le monde est débordé.
Ça fait des années que la maison police vacille sur ses base, rappelle Éric Maroc pour le syndicat Alliance. Et aujourd'hui, c'est bien la base qui exprime son ras-le-bol.
Les collègues veulent aller dans la rue, pas pour manifester bêtement, mais pour vraiment faire comprendre à tout le monde qu'il est grand temps que les choses bougent pour les policiers de terrain.
Et pour les syndicats de police, puisque l'un des enjeux du bras de fer engagé avec le gouvernement, c'est bien la question de leur représentativité.
Ezekiel Fernandez de France Bleu Gironde. De la prison avec sursis requise par l'accusation, c'est mieux pour les salariés de Goodyear, mais pas encore la relaxe qu'ils attendaient lors de leur procès en appel hier. Ils avaient été condamnés à de la prison ferme en première instance pour avoir séquestré deux cadres de Goodyear. Ce qui apparaît lié a touché Mars, la sonde européano-russe a atterri sur la planète rouge hier, mais on ne sait pas dans quel état, car depuis elle est restée muette. Les chercheurs attendent de nouvelles informations pour déterminer les raisons de ce silence. Pour l'instant, seuls les États-Unis ont réussi à poser un engin en bon état sur Mars. Une étoile cette fois a filé dans le ciel, elle s'appelait Yvette Chauviret. Elle est considérée comme la plus grande danseuse classique en France au XXe siècle. Elle est morte hier à l'âge de 99 ans. Les amoureux de ballet se souviennent de ses adieux à la scène en 72 au Palais Garnier avec Gisèle, son rôle fétiche. Yvette Chauviret est l'une des rares étoiles à avoir reçu le titre de Prima Ballerina Assoluta, un titre pour distinguer les talents exceptionnels d'une danseuse. Et puis si vous aimez la belle radio, ça doit être le cas puisque que vous écoutez France Culture. Terminons ce journal par une expérience à ne pas manquer. Radio France lance aujourd'hui la deuxième saison de Séquence. C'est une série de 12 concerts diffusés en son binaural. Un son en 3 dimensions, une petite révolution pour vos oreilles et pour le travail des artistes. Artistes pour certains en résidence en ce moment à la Maison de la Radio. Les explications avec Clément Lacaton.
Clavier et logiciel de montage contrôlé du bout des doigts, Chloé prépare un titre de musique électro en 3 dimensions. Ce qui change pour cette DJ nommée aux Victoires de la Musique en 2011, ce sont ses 5 enceintes disposées autour d'elle.
Là, en binaural, l'espace sonore est en 360 degrés, donc permet de positionner réellement les sons à tel ou tel endroit, de travailler sur des diagonales et pas que sur du gauche-droite. Ça peut aussi influencer la créativité. Aller plus loin dans certains sons, dans certaines recherche sonore.
Le son binaural a été expérimenté pour la première fois à Radio France dans les années 80. La plateforme Nouveau Son a ensuite vu le jour sur Internet il y a 4 ans. On y trouve toutes les productions en 3D sonore, documentaires, fiction et musique. Une vraie révolution, nous explique Olivier Pellerin, chargé des projets musicaux en son spatialisé.
On est immergé dans le son. En fait, la stéréo est une construction intellectuelle. Déjà, on pense que c'est la norme, mais ça l'est pas. Nos oreilles n'écoutent pas en stéréo. Nos oreilles écoutent clairement dans une sphère de tout ce qui nous entoure. Et plus ça va, et plus on arrive à reproduire ça avec la spatialisation du son. Et maintenant que la technique, on va dire, a pris de l'avance sur l'artistique, on s'est dit qu'il fallait qu'on permette aux artistes de s'approprier cette nouvelle écriture et cette nouvelle manière de disposer les sons dans l'espace au moment de la composition. Avec un artiste, on prend toutes les pistes qu'il va enregistrer, comme le ferait un groupe en studio, et ensuite les pistes, on les traite séparément comme des personnages, un petit peu, on les répartit dans l'espace, mais on peut aussi enregistrer ce qu'on appelle en binaural natif, c'est-à-dire qu'on utilise une paire de micros qui permet d'enregistrer comme les oreilles entendent.
La 3D sonore devient donc aujourd'hui une écriture à part entière.
La deuxième saison de Séquence, c'est à écouter avec un simple casque audio pour apprécier le son binaural, donc sur la plateforme Nouveau Son, nouveau avec un O, nouveauson.radiofrance.fr. Le temps de ce jeudi, instable sur le nord, du soleil au sud. Côté température, on prévoit de petites gelées blanches ce matin sur les massifs, la Beauce, le Limousin. Ailleurs dans les terres, il fera entre 3 et 8 degrés. En journée, on attend 11 à Belfort, 14 à Lille, 15 à Paris, 17 à Bordeaux et 18 à Marseille. Édition est préparée avec Emmanuel Faucillon.